Donc, ce podcast vous est présenté aujourd'hui par Tim Horton.
Ouais, ben, je pense qu'on va finir ça direct là, mon chum, si ça va.
Donc, bienvenue au premier épisode du No Show, podcast de variété. Aujourd'hui, on reçoit mon grand chum, mon frère d'armes, Sébastien Durand-Lau. Salut, man.
Hey, salut, ça va?
Ça va, toi?
Ben oui.
Je vous explique en gros la relation de moi et Sébastien. Dans mon ancienne vie de représentant en alimentation, j'ai approché Sébastien en tant que client, que prospect. Je pense que automatiquement. Puis systématiquement, la chimie s'est faite entre nous deux. Ce qui fait que oui, on a été clients, mais la preuve est que maintenant, là, je suis plus dans ce domaine-là, puis on est encore très très bons chums tous les deux.
Yes.
Sébastien m'a fait découvrir l'amour du café. Je vous explique. Je ne prenais aucun café avant, du tout. Il m'a fait visiter son atelier. Ça sentait le ciel carrément. Fait qu'il m'a fait un café. Je lui ai dit, je prends pas de café. Il comprenait pas trop le pourquoi. Il dit, ouais, mais t'aimais l'odeur, t'aimais petit patata. Donc, il me fait son pitch de vente. Écoute, honnêtement, j'étais charmé par son pitch de vente. Il me fait goûter un Americano. J'ai goûté vraiment le délice du café. Sébastien, explique-nous un peu. Premièrement, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ben, écoute, on a deux entreprises, moi et ma conjointe Carline. On a Écluse numéro 10, là, qui est un café bistrot. On est dans la région de Saint-Ours, aux abords de la rivière Richelieu. Mm-hmm. On a un très beau spot là, sur un des chemins là, les plus touristiques, les plus achalandés au Québec. Puis on est face à une écluse aussi. Enfin, le pourquoi du Écluse numéro 10. Tous les bateaux, dans le fond, là, écluse là, en face de chez nous, c'est le tremplin entre le fleuve Saint-Laurent puis le lac Champlain. Fait que on est très, très bien situé. Suite à ça, ben c'est ça. Au début, on voulait ouvrir juste un café crèmerie. On est devenu un petit peu bistrot à travers tout ça avec la demande des clients. Fait que c'est possible de boire café de spécialité, de boire une bonne bière de microbrasserie. On a de la bouffe maison. Là, tu sais, rien. On n'a rien réinventé là, mais ce qu'on fait là, on le fait avec amour. Puis de ça, ben est né avec ma passion du café une deuxième compagnie qui s'appelle Wiltor Café. On a commencé à s'intéresser aux cafés de spécialité. Fait que maintenant, ben, on fait venir nos cafés verts d'un peu partout dans le monde. On les torréfie ici même à Saint-Ours. Et on est rendu avec là, 12 points de vente là, en plus de Écluse numéro 10, là, où ce qu'on consomme nos cafés, où ce qu'on achète nos cafés en sac. On a aussi des restaurants, des pâtisseries là, à qui on a donné là, une identité là, dans le café de spécialité.
Nice. Juste pour démêler les choses, Wiltor Café, ton brand de café, oui. Écluse, le resto.
Yes, en plein ça.
Qui sont deux entités vraiment différentes, oui. Mais qui se rattachent, veux pas, là, par...
Yes, Wiltor, qui est dans le fond le nom de nos deux fils, à moi et Carline, là, William et Hector.
Nice. William qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui,
ouais,
on le salue.
Il essaie de pas trop faire bouger les poches de café là, pour pas faire de background de ça.
Bon, il a mis un duct tape sur la gueule, fait que ça l'aide un peu.
Ouais.
Donc, revenons à notre café. Sébastien, café en oui. 2020. On est rendu où? C'est rendu quoi?
Hey boy, une belle évolution dans le café. On essaie de mettre... longtemps, il y a eu un côté noir au café, des gens exploités. Je te dirais, on surtorifiait les cafés aussi. Mmh. On essayait de masquer des défauts du café causés par le transport. Tout a évolué, tout s'est amélioré. On travaille maintenant main dans main avec les agriculteurs, les fermiers un peu partout dans le monde. On essaye d'encourager le côté organique. Le côté écologique puis le bien-être là de l'être humain. Fait que je te dirais que tous nos cafés là sont rendus équitables et le plus possible organiques aussi. On essaie de se tenir loin de tout ce qui est pesticides.
C'est ce qu'on appelle, si je me trompe pas, le third wave, si on
peut dire. Oui, le third wave, qui est des cafés moins torréfiés, de mettre le fermier en avant-plan aussi. C'est eux autres qui font le gros de la job. Nous autres, après, tout ce qu'on fait, c'est peaufiner le travail d'acharné là, qu'ils ont fait. On crée les notes. Les notes sont déjà dans le café, mais c'est à nous à les développer là, le plus parfaitement possible. de nous en tant que torréfacteurs, de pas laisser trop notre... On veut développer dans le fond le café vert là, le plus possible sans venir nuire mécaniquement avec le torréfacteur.
OK. Parce que là, on parle de ça justement. Qu'est-ce qui fait... On parle, tantôt tu parlais que le café a beaucoup changé, il y a un nouvel visage. Qu'est-ce qui fait qu'avant, on avait toute la même image? C'est le café qui restait dans le fond des silex, qui était amer, qui était...
Ben c'est ça, on cuisait trop les cafés en partant. Ça revient un petit peu à ce que je disais, là. Dans le fond, c'est que les transports étaient moins adaptés peut-être qu'aujourd'hui. Il y avait moins de précautions là, qui étaient prises. Fait que les cafés, souvent, il y avait beaucoup de chemins à traverser. Les cafés étaient peut-être moins de qualité aussi. Les fermiers étaient moins éduqués dans la façon de cultiver le café. Le cultiver, c'est beau, mais il y a le séchage du café, il y a la fermentation du café qui rentre en ligne de compte pour avoir un bon café. Fait qu'à cause des justement, fait qu'à cause du transport, peut-être à cause du les techniques de fermentation, de séchage ont évolué. Fait que les cafés développaient des défauts. Il arrivait ici avec plusieurs défauts, puis une des seules façons de masquer ces défauts-là, c'était de le surtorifier. Okay. Tu sais, d'essayer de masquer les défauts en... Fait que un café qui est surtorifié, t'as beau prendre le meilleur café au monde, si tu le cuis trop, en bout de ligne, ça va être une grosse tasse de soupe, d'amertume, puis de désagréable. Mais je veux pas... Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui aiment encore le côté amertume.
On n'enlèvera jamais.
Non, c'est ça. Il y a encore des gens qui aiment le côté amertume du café. Tu sais, des torréfactions un petit peu plus italiennes. Mais il y a un très bel éveil là, sur le café de troisième vague puis de ce qui se passe là, dans la nouvelle ère là, du café.
Puis quand on parle, justement, on parle des goûts derrière le café, derrière le grain de café. On parle de café spécialité. Quand on parle de café spécialité, je me trompe pas, c'est diverses façons d'infuser le café, que ce soit l'espresso, le cappuccino, le moccaccino, nomme-les toutes.
Ouais, ça c'est des techniques d'infusion. Ouais,
on peut dire. Ça se peut-tu que ce soit rendu plus large?
On peut dire. Ben oui, c'est sûr que l'offre est beaucoup plus grande qu'elle a déjà été. Tu sais, on peut parler d'un cortado, d'un macchiato. On est rendu avec des affogato, tu sais, que les Italiens justement ont inventé là avec la fameuse gelato. Fait que, tu sais, c'est une boule de gelato, là. On coule un espresso dessus. Ça devient un peu comme un café. Ouais, un café dessert. Ouais. Fait que c'est cool. Ici, on le fait justement, mais on le fait avec nous autres l'été. On a crème glacée vanille, là, vraiment à la machine, crème glacée molle. Fait qu'on le fait, là, vanille chocolat. Puis, c'est bien populaire. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est le cold brew, des infusions à froid de café. On fait aussi un cappuccino glacé ici, mais vraiment fait avec une base de slush sucré, si on veut, avec la crème glacée vanille aussi, qui vient apporter un côté onctueux, mais on le fait avec du vrai espresso. C'est ce qui nous démarque un peu.
C'est pas un sirop comme...
Non, c'est pas de quoi la saveur de café. Là, c'est vraiment, on y va avec...
C'est l'espresso, vraiment.
Ouais, avec l'espresso. Ça change vraiment la donne, puis on peut le crinquer comme le client le veut aussi. Fait que, tu sais, on peut augmenter la dose de caféine à l'intérieur si besoin il y a.
Autre chose, Sébastien, que je voulais jaser avec toi. Justement, tu me parles depuis tantôt de certaines façons d'infuser du third weight coffee. Ça se peut-tu que, justement, maintenant, les gens, ont besoin d'être éduqués par rapport à ça, puis ils veulent être éduqués. On dirait qu'ils veulent apprendre plus.
Il y a un méchant bel éveil. Moi, je dirais, là, je pense qu'on est dans le début de ce que la bière de microbrasserie était, là, peut-être là, 7, 8 ans, une dizaine d'années, mettons. Tu sais, on se rend compte que le café, c'est aussi touché que le vin, que la bière de micro. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a un bel éveil. On s'est rendu compte qu'il y avait une multitude de possibilités dans le café, de saveurs. C'est ça qui est le fun. Puis c'est ça qu'on essaye de mettre là avec notre travail de torréfacteur. Parce que c'est pas juste de vendre du café moins torréfié puis de développer un café d'une autre façon. C'est aussi d'éduquer les gens rendus à la maison là, à le boire, là, à prendre la bonne infusion pour le type de café qu'ils ont entre les mains. Essayer de les aider sur le ratio aussi. Le ratio, le café eau qui est hyper important. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur steak, là, si tu sacs ton charcoal puis tu le brûles, mais c'est la même chose pour le café. Fait que notre job là, tu sais, est là. Il y a un gros travail à faire, mais il y a une belle une belle écoute puis une belle éveil. Fait que c'est vraiment le fun.
Mais pour pas induire les gens en erreur, là on parle de façon d'infuser, mais ouais. On s'entend que moi ma façon préférée c'est le Camex, tu le sais.
Ouais.
C'est
une belle façon de puriste. Hein.
Oui, puis tu sais j'aime la petite routine qui vient avec, j'aime tu sais de peser le gramme, des fois tu m'as fait un petit briefing sur comment le mood et ainsi de suite. Fait que tu sais moi je prends le temps de faire ça. Il y en a qui ont pas le temps, mais tu sais faut pas penser que quelqu'un qui ne le fera pas avec le bon ratio exactement au gramme près aura pas un bon café, c'est juste tu vas maximiser peut-être ton expérience.
À un moment donné aussi c'est ça, tu sais ça devient une question de goût, tu sais le meilleur café c'est le café que t'aimes là. Fait que peu importe tu sais moi je peux te faire goûter un café au Québec puis pour toi ça va être trop doux, tu sais, parce que justement t'es habitué d'avoir de quoi d'un petit peu plus torqué là.
La personne qui est habituée à l'espresso qui tombe le café au lait.
On essaye de distribuer des bases, des belles bases où ce que le café va être optimisé puis il va être à son maximum. Après ça, ben, tu sais, ton goût, tu l'ajustes à toi. Il n'y a pas personne qui fait la même sauce à spag dans la maison. C'est ça qui devient un peu le...
Toute la fois, tu donnes les outils quand même. Tu donnes les lignes directrices, tu sais, si tu veux le faire de telle façon, en espresso, en Chemex, en French press, comme on en a parlé.
Tu sais, à un moment donné aussi, pour apprécier les choses, tu sais, on parle tout le temps d'une question de temps. Mais tu sais, je veux dire, tu bois pas une bouteille de vin à la course, hein, mais c'est la même chose pour un bon café.
Faut prendre le temps,
tu sais. Tout à fait. Fait que, c'est ça. Yes.
Parlant de prendre le temps, janvier, t'es allé faire un petit trip aux États-Unis avec tes kids puis ta blonde. T'es allé faire une petite tournée d'un coffee shop américain.
Ouais.
Conte-nous ça un peu vite. Je veux pas avoir toute ton expérience en long
et
en large.
C'est cool. On est allé un peu se comparer. On est allé voir là, ce qui se passe là au bord. Le but premier, c'était des vacances. Mais tu sais, moi, des vacances, ça rime avec aller visiter d'autres torréfacteurs puis aller se pointer dans d'autres coffee shops. Fait que non, on a vu... les Américains sont là, je pense qu'ils ont même peut-être une petite avance sur nous autres.
Question de budget peut-être,
question de budget, question peut-être un petit peu plus facile aussi de se procurer des cafés verts, parce que tu sais beaucoup de cafés verts qui vont passer aux States par les États-Unis avant même d'arriver ici, fait que ça devient je pense un petit peu plus facile pour eux de se procurer là des grands crus puis des cafés d'exception. Malgré que le Canada puis le Québec là, commencent à rien avoir envie là, aux autres pays, mais je pense qu'il y a encore un petit peu plus de facilité là, aux States là, par rapport à ça. Écoute, on est inspiré surtout Miami, quartier Wynwood. Je te dirais que c'est un quartier qui nous a marqué pendant nos vacances, qui va un petit peu inspirer là, la prochaine image aussi de Wiltor, parce qu'on travaille sur un nouveau logo, on travaille sur un sac imprimé. On essaye d'aller vers un sac. Là, présentement, il n'existe pas de sac 100% compostable qui tiennent le café, tu sais, qui tiennent le café, que le café altérera pas. Fait qu'on a trouvé un sac là compostable à 65%. T'sais, c'est pas 100, mais c'est déjà mieux que zéro.
Mieux que zéro, exactement.
Fait qu'on s'enligne vers ça, vers un sac imprimé. Puis fait que c'est ça, ça nous a inspiré. On a eu des belles conversations de l'autre côté aussi. On a des gens là de la Floride qui nous suivent, avec qui on échange aussi là par rapport au café. Fait que c'est bien le fun là. Miami. On a bien trippé aussi sur dans l'état de la Virginie, la ville de Richmond, là, qui a deux super torréfacteurs là, là-bas. Okay. Fait que un des meilleurs cafés que j'ai bu durant mes vacances là, d'ailleurs. Là. Fait que, yes.
La vibe là-bas, ça ressemble à quoi? C'est-tu le même genre de vibe? C'est-tu la même clientèle?
Oui, je te dirais que ça se ressemble énormément. Les cafés sont dans les grandes artères, plus en ville, toujours proche des campus, veux pas. Tu sais, ça vient pas mal avec. Mais tu sais, qu'est-ce qui est agréable, un peu comme au Québec, tu sais, on commence à avoir des familles, le père, la mère qui passent se chercher un bon café avec les kids. Les kids, tu sais, moi j'ai des buveurs de chocolat chaud à la maison, fait que tu sais, ils ont toujours un bon chocolat chaud là aussi qu'ils peuvent se procurer dans un coffee shop.
Oui.
Fait que en tout cas, non, je te dirais, tu sais, oui, c'est encore beaucoup la place là des cégepiens, les gens d'université puis tout ça, mais tu sais, c'est la clientèle s'élargit énormément.
Oui, hein,
puis ouais, si on se fie à nous ici, parce que c'est beau là, parler des autres, mais nous ici, là, on a une clientèle de 0 à 99 ans. Puis tu sais, j'ai beaucoup de gens On les appelle nos petites têtes blanches. Là, ouais.
Les petits retraités de du village.
Ouais, on les adore. Puis, ils, qui s'intéressent au café de spécialité, là, qui viennent boire un cappuccino, un latte. Fait que, tu sais, c'est le fun. Là. Ils ont lâché là, le filtre, là, deux laits, trois sucres. Fait que, non, c'est vraiment cool. Il y a vraiment une belle éveil. Puis, on se sent à notre place.
Là, oui, puis c'est-tu le fait, comme on parlait tantôt, qu'il y ait tellement une variété maintenant? Parce que, on peut quasiment parler d'accord maintenant, ouais, jusqu'à un certain point. Tu prends certains déjeuners, tu prends tel genre de café, mm-hmm, ainsi de suite. Il y en a avec des notes de bleuet, des notes de noisettes, notes...
On est rendu au stade là, que plus ça va aller, tu vas rentrer dans les coffee shops et tu vas avoir un menu café. Là. Ouais. Ça va être carrément ça. Avec les notes qui ressortent du café, là, tu sais... On a un café d'Équateur ici là, qui rappelle l'orange confit, l'amande, la truffe chocolatée. On vient de recevoir un beau baril de Blue Mountain, la Jamaïque. Là, un des cafés encore les plus prisés qui vient avec une notoriété, si on veut. Ben, t'sais, on a un côté floral, on a un côté épicé. On a un beau Kenya 2A là, en micro-lot aussi qui vient de rentrer, qui est un café là, hyper fruité, qui est... T'as l'impression de boire de la confiture aux fruits, là, tu sais. Fait que c'est...
On est loin du Silex de Folgers des années 90.
Ah, ouais.
On dirait les choses, là.
Vraiment. Puis, une chance, Boswell, qu'il y a des belles choses à faire avec le café d'aujourd'hui.
Le fait, toi, de commencer, tu sais, ça fait un an que tu torréfies. Ça fait un an que tu es là-dedans. Versus, mettons, les torréfacteurs, ça fait 20, 25, 30, 50 ans, peu importe, nommez-les. Est-ce que ça te donne, je veux pas dire une longueur d'avance, mais le fait que le vieux torréfacteur de 25, 30 ans, qui a sa recette, qui a sa façon de torréfier, justement, tu me parlais tantôt que dans les années 90, il y avait une certaine façon de procéder. Maintenant, c'est complètement différent. Lui qui est là depuis 30 ans, qui a sa recette, qui veut pas changer sa recette parce que je veux pas catégoriser les baby boomers de conventionnel, mais c'est un petit peu ça, mm-hmm, pareil.
Ouais.
Eux autres, il y a sa recette, il la change pas, il évolue pas, il y a sa clientèle très cible versus toi qui part à zéro, mm-hmm, qui veut t'élargir, qui veut connaître, qui veut apprendre des nouvelles choses. Mm-hmm. Ça te donne-tu une, entre guillemets, longueur d'avance?
Ben, pas nécessairement. Tu sais, parce que j'ai pas le bagage du vieux. Tu sais, le vieux a fait des erreurs. Le vieux a compris des choses aussi. Tu sais, le café, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais est-ce que je m'ajuste tout de suite, est-ce qu'on s'ajuste tout de suite à la nouvelle réalité du café? Je pense que oui. Tu sais, il n'y a pas une journée que je torréfie, que je prends pas encore plus d'expérience. Ouais. Tu sais, le matin que je vais penser que j'ai tout compris du café, là, tu sais, je suis mieux d'arrêter tout ça là parce que je suis en dehors de la trappe.
Ben, c'est là que tu vas être dépassé par les autres.
Ouais. Hein, fait que, non, comparatif avec le monsieur qui a 20 ans en torréfaction versus moi, je te dirais, il y a bien des affaires que le vieux sage sait que j'aimerais savoir, tu sais. Mais, est-ce que je suis fier du torréfacteur que je suis déjà en peu de temps? Oui, je le suis.
C'était ma question. Tu te situes où, toi, là-dedans?
Ben, je pense que je suis dans le game. Hein.
Ouais?
Ouais, je suis dans le game, puis plus ça va... Tu sais, moi, je suis déconnecté des grosses artères. Je suis pas à Montréal, je suis pas à Québec, je suis pas à Sherbrooke. Je suis un petit nouveau. On roule deux business, moi puis ma blonde. J'ai peut-être pas le temps, autant de temps de pouvoir... m'intégrer un petit peu plus à la communauté, à communauté café. Tu sais, on est allé se comparer, là, veux pas, là, quand on est allé aux États-Unis, là, tu sais, puis on a rien à envier, là, présentement, là, dans le café. J'ai vraiment pas fini de prendre l'expérience puis de devenir meilleur. Mais, tu sais, oui, j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour m'intégrer à la communauté café, là, qui se trouve dans les grandes artères, tu sais, Montréal, Toronto, dans l'Ouest canadien, là, Vancouver, tout ça, on a des top torréfacteurs qui sont en avance, là, tu sais, je te dirais, là, comme Vancouver l'est en général sur Montréal, puis sur les autres villes, là, pas mal du Canada, mais, écoute, ça va venir, mais là, pour l'instant, on est à l'extérieur de la ville, on a deux business à rouler, on est des petits nouveaux, fait qu'on a moins de temps là pour aller se peaufiner puis aller jaser avec nos frères de café là, tu sais.
Okay.
Ouais.
Parlons un petit peu de Sébastien Durand-Lot, le gars, l'homme, le père. Toi, Sébastien, à la base, t'es pas du tout torréfacteur ou restaurateur.
Non, moi, je suis un monteur de ligne. J'ai fait 10 années comme monteur de ligne. Je travaillais sur la construction. Je te dirais que ça fait 6-7 ans que je m'intéresse au café, que j'avais commencé à me procurer des cafés un petit peu plus fancy, de voir les torréfacteurs du coin sans trop réaliser, tu sais, c'était quoi le travail en arrière d'une torréfaction de café. Tu sais, j'étais pas
lourd.
Non, mais j'aimais goûter des cafés. J'avais une passion aussi pour l'antiquité, fait que je collectionnais des vieux jars en métal de cannes de café. Fait que tu sais, il y a tout le temps eu de quoi par rapport
à ça flottait tout le temps
par rapport au café. Okay. Fait que c'est ça. Fait que monteur de ligne, j'étais plus heureux dans mon travail. Okay. Ma conjointe Carline, la même chose, elle est hygiéniste dentaire, plus heureuse dans ce qu'elle faisait. On avait le désir de partir de quoi ensemble. Ça a commencé par un projet de bed and breakfast. À force d'aller dans des beds la fin de semaine, on a commencé à aller dans un bed and breakfast là, quasiment tous les week-ends. On posait des questions, on s'imprégnait, tu sais, de qu'est-ce qu'on... On s'est rendu compte que c'était peut-être plus un projet de retraite ou que ça te prenait vraiment plusieurs chambres pour, tu sais, en vivre. Ouais, pis, fait que c'est tombé sur la glace, tu sais. Après ça, on s'est tenu pendant quasiment 2 étés de temps. Là, on allait beaucoup à l'île d'Orléans. On a rencontré quelqu'un là-bas qui faisait du foie gras d'oie puis de canard naturel. On s'est quand même lié d'amitié. Puis encore là, ben, toute fin de semaine, on montait à l'île. On se sentait chez nous là-bas. Puis quand on a acheté ici le spot, la maison, le resto, le stationnement, le site, là, dans le fond, on pensait vraiment avoir... on avait le droit à une unité animale, ça nous donnait le droit à 300 ou 400 canards oies. Fait que il y avait la bâtisse sur le site qui on nous disait qu'il pouvait peut-être devenir le point de vente de tout ça.
Okay.
Puis en fin de compte, en cours de route, la passion pour le café a augmenté. On s'est dit, tu sais, le fait d'habiter le site aussi, on voyait, parce qu'en face, là, c'est Parc Canada, c'est l'écluse que je vous parlais au début.
Très beau spot, soit dit
en passant. Fait que là, tu sais, on a vu tout l'engouement qu'il y avait pour les écluses de Saint-Ours, qui est un site de Parc Canada. On est rendu avec des petits chalets authentiques, là, aussi sur l'île. Les gens peuvent venir dormir, puis tout ça. Fait qu'on voyait l'engouement, l'intérêt, les gens qui se tenaient ici l'été, puis là, un moment donné, ben, on a travaillé notre offre.
Okay.
Ma passion de café remontait à surface. Carline, elle, la crème glacée, tu sais, avait des affinités avec ça. Elle est allée travailler chez Chocolat Favori, tu sais, pour un peu s'imprégner, se baigner dans le bain. Puis là, on s'est dit, on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait offrir aux gens qui venaient faire des pique-niques ici, qui passaient en bateau. Fait que la crème glacée, puis le café, c'est deux
win-win.
Ouais, c'est deux win-win. Fait que c'est ça. Là, suite à ça, ben, la suite, ça a été les repas, la bière de micro, puis tout ça.
Puis la clientèle a grossi.
Ouais.
Au-delà de ça, le café pour toi. Là, je te parle pas de la business, je te parle pas de Wiltor Café, je te parle le café en tant que tel, la place dans ta vie. C'est qu'est-ce que ça prend comme place à la maison?
C'est une passion, tu sais, c'est vraiment rendu une passion. Moi, quand je traverse dans l'atelier, là, c'est, tu sais, il y aurait pour du monde, c'est un deuxième chiffre qui commence, mais moi, la journée vient de se terminer là, puis c'est comme si je travaillerais après mon vieux char dans mon garage.
Là. Okay.
Fait que c'est ça la place que ça a pour moi, c'est une passion, je peux même peut-être paraître freak des fois, là, par rapport à mes cafés verts, par rapport au temps que je peux passer dans l'atelier, C'est ça, c'est de toujours vouloir faire mieux. C'est un produit qui est constamment changeant. Tu peux avoir un café colombien d'une petite, c'est un peu comme le raisin, le vin. Tu peux avoir un café colombien d'une région, tu vas avoir exactement le même café l'année d'ensuite, suite aux températures, suite au sol, au...
Oui, parce que le même grain qui est cueilli à la même place d'une année à l'autre est complètement différent.
C'est constamment de l'ajustement, puis moi, j'ai besoin de ça dans la vie.
Du challenge.
Ouais, je suis un gars qui a besoin de... Faut pas qu'il patauge dans sa routine. Fait que là, je suis tout le temps projeté... ça me projette tout le temps en avant, puis c'est ça que j'ai besoin. Puis, ben, tu sais, j'aime ça. Moi, l'odeur du café, tu sais, ça me rend émotif. Ça va jusque-là, là. Fait que...
Parce que, tu sais, on se le cachera pas. On rentre dans ton atelier, ça sent ça. Ça sent... Puis là, On parle gros. Tu sais, je fais un podcast avec mon chum Sébastien. Tantôt, je lui dis, c'est mon frère d'âme, puis c'est un petit peu ça. Tu sais, moi et Sébastien, depuis le temps, il y a une relation qui s'est créée. Tu sais, on est rendu carrément des frères d'âme. Puis, tu sais, je rentre ici, c'est ça sent ça. Ça sent la famille, honnêtement. Puis je dis pas pour être têteux, là, je regarde Sébastien dans les yeux quand je dis, mais c'est vrai, ça sent ça. Son gars est avec nous autres. Il y a un enseigne, je pense, c'est ton grand-père qui est là.
Ouais.
C'est la famille qui est ici, puis on le voit que ça te passionne.
Mm-hmm.
Tout ça, là tu étais monteur de ligne, Caroline était hygiéniste dentaire, vous avez tout planté ça là, vous avez parti, j'aime le café, j'aime la crème glacée, on part à café de crèmerie, le referais-tu?
Ben oui, je le refais demain matin. Le monde me traitait de débile de passer ici à Saint-Ours, puis tu sais, 3 ans après, je pense qu'on ferme le clapet à bien du monde, puis le but, c'est pas de fermer le clapet à personne, là, mais tu sais, je veux dire, c'est... quand t'as de quoi derrière de la tête, que t'as un but, que t'es passionné, que tu mets les efforts pour, ben, tu sais, nos limites, là.
Ouais.
Nos limites. Puis c'est ça qui arrive présentement. Les deux compagnies, ça continue, ça s'en va tout le temps en grandissant. On n'a même pas l'impression de rien pousser. Tout arrive tout seul. T'sais, on dirait que c'est un jeu de Lego, là. Tout s'emboîte, là. Fait que, ben, je pense que ça nous dit que... on est à notre place.
Comme on dit, aime ta job, tu travailleras plus jamais de ta vie.
Et voilà.
C'est un petit peu ça.
Et voilà.
2020 et plus, ça s'en va où le café, selon toi?
Ouais, ça s'en va où? Ça s'en va partout, le plus loin possible. C'est là que ça s'en va. C'est sûr que je vise une percée montréalaise. C'est sûr que j'aimerais bien ça, avoir une coupe de points de vente à Montréal. Être torréfacteur invité dans des cafés de Montréal où ça groove, où c'est que ça roule, puis on veut élargir nos points de vente. On est bien établi ici dans la région, mais tu sais, on veut aussi aider d'autres commerces comme le nôtre là, qui veulent se donner une identité dans le café. Ben tu sais, c'est là qu'on est créé pour les autres aussi, c'est le fun. Là.
Ben comme tu disais tantôt, je pense que le café, c'est rendu une belle communauté. Tu disais qu'aux États-Unis, ça se parlait entre eux autres, ils t'ont même aidé toi. Ça se peut-tu que ce soit ça maintenant, rendu une belle grosse confrérie? Oui, il va y avoir une certaine rivalité, une certaine compétition, veut pas.
Ouais.
C'est des business, pas le choix. Mais ça se peut-tu qu'il y ait une certaine confrérie qui fait que,
ouais, il y en a une. C'est sûr que nous autres, les petits torréfacteurs, je vais prendre genre Brûlerie du Quai, qui est à l'autre bout du monde aussi. Moi, qui est à l'extérieur de la ville, des fois, faudrait parler à Danny Marquis là-bas ou d'autres torréfacteurs qu'on a un petit peu plus à l'extérieur. Moi, personnellement, des fois, j'ai l'impression de peut-être être moins considéré parce que je suis pas dans la grande ville, mais c'est peut-être juste une impression que j'ai aussi. Puis, tu sais, je dis ça, mais tu sais, j'ai pas essayé encore.
Ouais.
J'ai pas eu le temps d'essayer encore.
T'es pas rendu là encore.
Non, tu sais, j'ai pas eu le temps encore d'essayer de... Tu sais, là, on a des belles... Il y a des belles conférences chez Canadian Roasting à Montréal où il se passe beaucoup de choses dans le café. Des importateurs qui se pointent pour venir faire des coppings de super cafés de spécialité. Il y a des beaux torréfacteurs qui sont nés aussi là-bas chez Canadian Roasting. J'ai suivi une ou deux petites formations là-bas. Et puis, ben c'est ça. J'ai hâte d'avoir du temps un petit peu pour m'intégrer à tout ce beau monde-là. Puis qui... Je veux qu'ils sachent que j'existe, puis il y a un passionné là dans le coin de Saint-Ours sur le bord du Richelieu qui suit à la game. Là.
On te souhaite, mon gars.
Merci.
Quelqu'un qui veut en savoir plus sur le café, sur Wiltor, sur Écluse, comment ils peuvent te rejoindre?
Ben, sur nos réseaux sociaux, on a un gars qui s'appelle Sébastien Joubainville qui nous fait une super
shameless
job.
Plug.
Ouais, qui nous fait une super job, qui est parti s'accompagner nos studios aussi. Fait qu'on est très très suivable, très très actif sur Facebook, Instagram, que ce soit pour Écluse numéro 10 ou Wiltor. Il va y avoir nos sites web là, qui vont être on sera pas de cachette à retravailler un petit peu là. On a un look un peu vieille matante, là, on veut lâcher ça là, puis s'en aller un petit peu plus trash, marginal, puis ce qu'on est dans le fond.
À votre image, à votre image.
Yes.
Fait que c'est ce qui conclut le premier podcast du No Show avec mon frère Sébastien. Si vous avez des questions, comme vous avez vu, gênez-vous pas, laissez des messages, laissez-y d'amour un petit peu sur ses pages, sur ses réseaux sociaux.
On n'a jamais trop de love.
Exactement. Pour ma part, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez, comme je dis, des idées, des commentaires, des suggestions, qu'ils soient bonnes, pas bonnes, on veut les entendre, on veut vous entendre. C'est ce qui va nous aider à pousser le podcast plus loin, c'est ce qui va nous aider à... pousser l'expérience plus loin. C'est ce qui va nous aider à avoir du fun tout le monde. Fait que merci d'avoir écouté, puis on se reparle bientôt. Peace!